J'ai peur de rien, enfin bon, peut-être un petit peu de la foule, voilà, de l'avion, du vide, de la maladie, des autres en général.
On me répétait toujours, pourquoi ne voyagez-vous pas par avion? Vous gagneriez du temps et tout compte fait, cela ne vous reviendrait pas plus cher. Et je répondais avec un air détaché, je suis venu en Afrique pour voir de près les Africains et l'Afrique. D'avion, on ne voit presque rien, mes bagages sont trop lourds et puis je ne suis pas pressé. En réalité, je ne pouvais pas avouer que j'avais une sainte frayeur de l'avion. Une véritable phobie de l'air et de l'altitude.
J'ai peur des clowns essentiellement. Je sais pas pourquoi les clowns me font flipper, mais en tout cas, c'est, voilà, c'est dingue. J'ai peur de prendre des ascenseurs, mais j'ai aussi peur de prendre des escaliers au cas où ils s'écroulent. J'ai peur d'aller sur des balcons parce qu'ils peuvent s'écrouler également. J'ai peur de me faire agresser, kidnapper. J'ai peur que mes enfants soient perdus.
D'autres peurs sont plus nettement pathologiques. Ce sont celles qui se répètent ou qui se reproduisent toujours dans les mêmes circonstances, et que l'on appelle des phobies. Par exemple, la crainte du feu, la peur de se trouver dans la foule, le sentiment de répulsion à l'égard de certains objets habituels, comme une étoffe ou un animal.
Vous pénétrez dans l'ascenseur, et vous allez vous retrouver maintenant esclave dans une boîte fermée, que vous ne pouvez ouvrir que dans des conditions restrictives pour d'excellentes raisons de sécurité qui sont parfaitement connues, parfaitement légitimes, mais qui psychologiquement correspondent de toute façon à l'idée d'enfermement, d'être bloqué. Et vous vous trouvez donc dans une situation extrêmement délicate, extrêmement pénible.
Ces phobies sont associées à des mouvements, des tics, et sont du ressort du médecin qui indiquera, chaque cas est en particulier, les mesures à prendre pour en venir à bout.
Sans boîte de nuit, quand il y a beaucoup de monde.
Pensons simplement à ce qu'on appelle maintenant, quelquefois un peu, d'une façon légèrement ironique, le complexe de la guillotine. Ces portes à battants qui se referment et qui s'ouvrent, etc. Et dans lesquelles vous avez une terreur.
Ça m'arrive aussi de temps en temps, ça me surprend dans le métro.
Ma phobie, c'est les serpents.
Je déteste les serpents.
Personnellement, j'ai peur des crabes. Je trouve ça horrible. Et dès que j'en vois un, et ben je panique et je cours.
La phobie la plus infolie, c'est mon ami qui a la phobie des pieds. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lever les chaussettes. Quand il prend la douche, c'est avec chaussettes.
Ceci est bien négligeable qu'il faut être très obstiné ou très minutieux pour parler d'un complexe de la guillotine au sujet des portes à battants qui s'ouvrent et qui se ferment dans beaucoup de nos immeubles modernes. Bien. Qu'ils regardent de près le comportement des enfants, des vieilles dames, d'un certain nombre de personnes, et qu'ils se regardent donc eux-mêmes, je leur propose, ils découvriront cette idée que nous, j'appelle d'une façon un peu humoristique, une angoisse minimale, une micro-angoisse au sujet de l'ouverture, de la fermeture et par conséquent des systèmes de fermeture automatique.
Quand je peux être avec des potes ou quoi, que je connais pas forcément, l'impression de paraître bête ou de pas dire les bonnes choses.
Il y a quelque chose autour de la flexibilité, la souplesse, la métaphore, c'est un peu le surfeur. C'est-à-dire, au fond, on est parfois, quand on est un peu tendu, stressé, un peu rigide face aux événements, on se rigidifie. Imaginez le surfeur qui se rigidifierait sur sa planche, il va tomber face à la vague. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à être plus souple, plus flexible et à accepter ce qui vient, même si c'est parfois un peu difficile.
J'ai la phobie de l'avion, comme beaucoup de gens, et c'est sans doute celle qu'on arrive à mieux contrôler parce qu'éventuellement, on prend quelques calmants si vraiment on a besoin de voyager. Mais la plupart du temps, je prends le train. Je me renseigne d'abord sur les horaires de train et la façon d'aller soit par bateau, s'il le faut, par train, plutôt que par avion.
Là encore, il peut s'agir d'une manifestation passagère sans lendemain ou du début d'installation d'un trouble qu'il faut traiter précocement. L'importance du climat éducatif est remarquable. Il est bien rare de ne pas retrouver, dans le passé de ces enfants inquiets, un trouble de la relation familiale qui imprime une forme particulière au signe peur.
Donc, c'est-à-dire que moi, je prends le métro tous les jours pour aller travailler. Et en fait, quand je vois le métro arriver, bah, je vais me dire, bah, voilà, si je pousse quelqu'un, et il y a tout le scénario qui va se dérouler dans ma tête, je vais finir en prison.
J'ai déjà vu un pote, lui, il a peur de se retrouver avec une fille qui a les orteils crochus.
Et puis, surtout, j'ai la phobie des ascenseurs. Et ça, dans la vie quotidienne, c'est assez dur parce que d'abord, il faut de bonnes jambes, ça compense. C'est vrai qu'on peut dire qu'à la limite, ça remplace le sport qu'on ne fait pas. Mais c'est vrai aussi que ça peut empêcher d'aller voir des gens, que ça peut peut-être même empêcher d'avoir un boulot, parce que si c'est au 25e étage d'une tour, il est évident que je ne me présenterai même pas pour aller chercher cette place.
Pour moi, c'est une phobie qui est un peu, qui est pas facile à assumer, parce que quand je dis à quelqu'un que je ne sais pas nager, que j'ai peur de l'eau, on a l'air de me dire mais comment ? C'est comme si je disais je ne sais pas faire du vélo.
Et je pense aussi à la famille de la victime, se dire qu'elle va être dans le deuil.
Et qu'il m'est arrivé d'avoir à rencontrer des amis plutôt dans des restaurants, dans des bistrots, ou chez moi, plutôt que de monter chez eux au 14e étage.
Ma belle-mère qui a peur des orages. Elle a une phobie monstre des orages. Dès qu'elle en entend un, elle se met sous la couverture et elle panique. Elle tremble et elle a les larmes aux yeux. Elle panique tout simplement.
Je fais ce que je veux. Je peux. Je fais ce que je veux.
Pareil avec mon conjoint, si on cuisine ensemble et que j'ai un couteau, voilà, je me dis, j'ai cette arme dans ma main d'arrêter une vie. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un coup de folie et que je passe à l'acte? Et voilà, pareil, je pense à mes beaux-parents. Y a toujours aussi cette peur de la prison qui revient. Je me dis, je vais finir en prison, je vais gâcher ma vie.
Qu'est-ce qui vous effraie dans les pieds, en fait?
Les voir.
Les doigts?
Les voir.
Ah ouais, d'accord.
Les sentir, j'aime pas quand ça me touche, tout.
L'angoisse va monter, et sauf qu'il n'y a pas de solution au final, quoi. Sauf quand quelqu'un va finir par arriver, mais ça peut être très long. Ça m'est déjà arrivé d'attendre une heure, trois quarts d'heure à pleurer, à trembler. Donc ça va vraiment assez loin.
Je sais pas du tout comment ça se prononce. La peur des canards.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Les canards.
Je garde toujours mes chaussettes. Je vais jamais à la piscine, jamais à la plage. Même en été, je garde toujours des collants, même si je dois mettre des chaussures ouvertes, ouais, tout le temps. Je vis en chaussettes, presque.
Et alors après, ça dépend de mes... Si c'est un jour où, avec, je vais l'oublier assez vite. Si c'est un jour sans, ça va me poursuivre au travail et ça peut me poursuivre dans la journée, toutes ces pensées. C'est plus la peur, mais pas l'envie.
Les gens trouvent ça bizarre, je vous le cache pas. Même mes frères, ma mère, mes amis, tout le monde trouve ça bizarre. Ils y croient pas comme vous. Mais pourtant, c'est ma phobie à moi, c'est comme ça.
Je suis hémétophobe. J'ai peur de vomir.
Une soirée, elle nous appelle parce qu'elle ne peut plus bouger. Elle a vu une araignée, donc elle est coincée. Il faut qu'on vienne la tuer, l'enlever.
Oh.
Les premières fois, c'est vrai que je me disais, elle fait du cinéma. On m'a dit, prends un peu sur toi, écrase-la. On ne sera pas tout le temps là. Il faut que tu apprennes à te débrouiller avec une araignée.
Il y en a, ils adorent les embrasser. Moi, ce n'est pas mon délire, c'est tout. Elle est toujours en collant, ma fille, quand elle est avec moi. Ouais, elle dort en collant, je sais.
Même d'en parler pour moi, c'est compliqué. J'ai la phobie des trous.
C'est quand on a peur des trous, des petits trous. Parce que des grands trous, ça me fait rien, mais vraiment, les petits trous collés, là. Ça m'a fait ça une fois avec une ruche d'abeilles. Je suis restée fixée dessus, comme ça. Oh.
On a l'impression qu'on a toujours peur que ça nous pique, que ça nous monte dessus. Les grosses velues, j'aime pas.
Ça me révulse, voilà.
Oui. Oui, ça m'angoisse.
Ça fait GPS, ça fait tout, donc oui, je suis vachement accro à mon téléphone.
C'est vrai, j'ai peur de le perdre. J'ai tous mes contacts dessus, j'ai tous mes codes.
Je suis claustrophobe et agoraphobe, j'ai peur de la foule en espace clos.
J'ai la peur de la mort en général.
Ensuite, un jour, ma mère m'a fait, on appelle ça des mille trous, c'est comme des crêpes avec des trous. Genre, j'ai fait non, je peux pas. Les mille trous, je mettais du miel dessus, on les voyait plus, les trous. Enfin, tu mets du Nutella, on les voit plus, quoi. Mais la ruche, c'est bizarre hein, la sensation, mais genre ça me fait quelque chose au corps, genre je peux pas voir ça. C'est trop bizarre, ça m'a dégoûtée.
En fait, c'est l'aspect liquide, la couleur, enfin c'est tout. D'après ce que me dit ma mère, j'ai jamais aimé le lait en fait. Mais en fait, ça a vraiment été horrible, on va dire. Quand j'étais plus jeune, en fait, ma sœur, elle avait l'habitude...
Quand il y a plein de petits trous.
Une fois l'habitude. En fait, elle prenait son jus d'orange et elle le mélangeait avec du lait. Et c'était horrible. Donc ça se commençait à cailler. Et à partir de là, ça a été terrible.
Il y a les bruits qui m'agacent et les bruits qui me rendent complètement bas.
C'est très dur parce que je tremble encore. J'ai la chair de poule.
Là, par exemple, ma belle-sœur vient d'avoir un petit garçon. Et en fait, je ne peux pas le voir prendre son biberon. Ça, ce n'est pas possible.
Donc ça m'angoisse. Et c'est source de stress, de nausées. Donc je ne voyage que le ventre vide.
J'ai eu des problèmes d'agoraphobie, effectivement. Maintenant, ça va mieux.
D'aller à l'extérieur, ça me provoque des angoisses. Pour moi, c'est une situation qui est hors de contrôle.
J'aimerais bien, surtout, si un jour je dois avoir un enfant, parce que ça risque d'être très compliqué. Je ne sais pas comment on fera, parce que c'est un peu la base. Donc
les bruits qui m'agacent, les bruits de piétinement, les bruits de claquement de porte, on est entouré aujourd'hui, on est dans un siècle bruyant. Le bruit est partout. Donc les bruits qui m'agacent,
je prends sur moi. Donc, je suis quelqu'un d'hyper tendu. Mon ostéopathe se reconnaîtra. Mm-hmm. Elle a un travail continuel pour me détendre. En fait, je suis tout le temps tendue pour supporter en fait cet environnement continuel, le bruit d'une voiture ou d'une moto qui passe en faisant beaucoup de bruit, des aboiements de chiens, des enfants qui vont hurler dans un parc.
Un pigeon. C'est super chiant les pigeons, ça sert à rien, c'est moche, ça fait peur, parce que je crois que j'ai la phobie des pigeons, évidemment. Je suis pas normale, et ça fait caca de partout, quoi. Ouais, je dirais un pigeon.
Alors ça va être tous les bruits corporels, le reniflement, alors en général pas le reniflement, je suis enrhumée, bon ça c'est agaçant, mais notamment les gens qui vont respirer, faire sans arrêt, souffler de l'air par le nez, les personnes qui vont déglutir bruyamment, ou mâcher bruyamment la bouche ouverte, là, ça part de là, ça part du plexus, j'ai une colère.
C'est vraiment les petits trous, genre les pores de la peau, quand on zoome un petit peu, ou...
C'est eux, c'est physique, j'ai juste envie de les tuer.
J'ai toujours eu peur, et bon, c'est vrai que j'ai pris des leçons avec un maître nageur, qui, voyant que j'avais peur, parce que j'arrivais pas à me décrocher dans du grand bain, j'arrivais pas, il m'a fait remonter, il m'a dit bon ben remonte. Alors moi je croyais que c'était bon, c'était fini. Il m'a attrapé et hop, il m'a balancé dans le grand bain. Ouais, comme ça. Alors depuis, fini. Hein. Fini.
Vaut mieux que je la tue maintenant, sinon si je la vois plus après, je vais paniquer.
Depuis vraiment petite, j'ai ces phobies d'impulsion.
C'est mon bâton, qui fait un peu plus de 2 mètres, je pense, et ça me permet de les avoir au plafond. Et de me tenir assez loin pour être sûre qu'elle ne grimpe pas sur le bâton et qu'elle vienne atteindre ma main, quoi. Donc voilà. Voilà mon bâton anti-araignée, quoi.
Non, je ne suis pas phobique du nombril.
Le pire pour moi, c'est quelqu'un qui mange une pomme. Et alors là, la pomme qui craque.
Ben, en fait, ça peut paraître anodin d'avoir peur d'un insecte comme ça, mais en fait, je suis phobique, maladif. Enfin, je supporte pas même le mot. Je supporte pas de le prononcer. Je me mets à trembler, j'ai peur. Des fois, j'ai des chutes de tension. Je peux m'évanouir, pleurer. Ça peut partir en vrille totale.
La pomme qui craque, c'est pas possible. Ouais.
J'adore les araignées, les serpents. J'adore les insectes.
Moi, c'est la peur de la profondeur. J'adore l'eau, mais la peur de la profondeur, c'est une peur panique. Hein. C'est la boule à l'estomac. Et déjà rien que d'avoir mis le pied juste là, j'avais déjà un mal au ventre. Me mettre près du bassin, j'étais là, qu'est-ce qu'ils vont me manger? Et en fait, maintenant, ça va, c'est pas... on va dans la piscine, naturellement, ça va.
Le nom de ma phobie, c'est l'entalmophobie. C'est la peur de tout ce qui est invertébré, donc les chenilles, ceux qui ont des corps mous, les vers de terre, les asticots.
J'ai peur d'E.T. l'extraterrestre. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai eu une phobie de cet alien. Je comprends pas comment on peut montrer ça à des gosses. Hein. Écoutez, moi je ne peux pas le supporter, cette espèce d'isobweb là. C'est une erreur de montrer ça à des gosses. À la limite, ça se trouve, je l'aurais vu à 10, 11, à 12 ans, j'aurais peut-être pas eu peur, mais ça m'a traumatisé. Hein.
La peur des fonds marins. À partir du moment où mes pieds touchent pas le fond, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui va me grailler la jambe. Pour ça, ceux qui nagent au bout de l'océan, vous êtes des malades.
Quand j'étais toute petite et qu'on allait, on louait une maison en Charente-Maritime qui avait des plafonds qui faisaient 5 mètres de haut. Et sur ces plafonds, il y avait des araignées, mais des grosses araignées noires de campagne, enfin, qui ressemblaient à des mygales, j'avais l'impression, tellement elles étaient grosses. En fait, je passais des nuits horribles, je m'endormais sous le coup de la fatigue à 2-3 heures du matin, et j'étais avec ma lampe de poche à regarder si elle descendait pas du mur, enfin voilà.
Quand j'étais petit, ma mère, elle avait acheté une poupée, et quand je faisais des bêtises, elle me faisait peur avec. J'aimais pas aller chez mes cousines parce qu'il y avait beaucoup de poupées. À chaque fois, elle me faisait peur et tout, moi je couvrais, je criais.
J'étais au Maroc, parce que ma mère est d'origine marocaine. Je joue au foot, ce qui n'est pas anodin, mais je joue au foot, tout ça, avec des amis. Et puis, il y a un enfant, en fait, qui est arrivé, puis il l'a écrasé, comme ça. Et il l'a jeté sur moi, en fait, ça a fait schlac. Ah. Et en fait, j'avais un t-shirt blanc, et quand j'ai vu ça comme ça, en fait, ça m'a... Je sais pas, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai fait... j'ai fait une petite crise. Et puis ensuite, la même nuit... Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est un rêve, je ne sais pas si... tellement c'était vraiment choquant. Je dormais, en fait, on dormait tous dans la même pièce. Et puis, en fait, je regardais un film, et puis, il y a un truc qui a fait schlac, comme ça, sur mon torse. Et là, j'ai crié, mais de toutes mes forces, genre comme ça, comme ça. Mais personne ne s'est réveillé, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne saurais pas vous dire si c'est un souvenir de... Je ne sais pas si c'est un rêve ou je ne sais pas.
Alors, j'ai aussi peur de la mort. Alors vraiment, rien que d'en parler, en fait, ça me fait des nœuds au ventre. Quand je parle à quelqu'un, je peux pas en fait m'imaginer qu'il n'y a rien après la mort, que c'est le néant en fait. Donc,
moi je suis claustrophobe et agoraphobe, j'ai peur de la foule en espace clos.
Je pense que je manque de volonté aussi, peut-être, parce que je peux pas, en fait, c'est au-dessus de mes forces. Pourtant j'ai peur de rien, vraiment, j'adore tout ce qui est dangereux, j'adore tout ce que les gens détestent. Mais ça, c'est vraiment mon petit truc.
Même me couper les ongles, j'y arrive pas, tu vois.
Être émétho, être phobique, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous bouleverse, ça vous retourne, ça vous change une vie. On est devenu un soldat et en fait, on vit plus. On se bat pour survivre face à tout ça.
J'ai des frissons, j'ai des crispations et je cours à l'autre bout de la terre. Je panique en fait. Genre vraiment, c'est de la grosse panique de ouf.
Ça me crispe, ça me donne un peu des sueurs froides, ça me tend, ça me... Vraiment, je déteste.
Il y a plusieurs catégories. Je mange des litchis et des fruits rouges. Donc ça, même j'adore ça. Hein. Après, il y a tout ce qui est un peu... Enfin, pomme, poire. Là, j'en ai mangé il y a quelques temps, mais mes parents me forçaient, en fin de compte. Après, il y a tout ce qui est fruits exotiques, ananas, brugnon, pêche, kiwi, banane. Alors ça, c'est le pire. Juste le mot fruit, c'est tout rugueux, c'est tout.
Par exemple, les champs de tournesol, ça me dégoûte.
Moi, j'ai la batrachophobie. C'est la peur des grenouilles, des crapauds et tout ce qui se rapproche de près ou de loin. Et je vous jure que c'est méga sérieux.
Quand j'étais à l'école maternelle, donc il y avait une portion de fruits en dessert, et tant que j'avais pas fini ma portion de fruits, et ben je restais, enfin j'étais la seule dans la cantine et je restais des heures à table comme ça, mais je ne cédais pas, je voulais pas y manger, et parce qu'avant ça, je mangeais des fruits. Donc oui, moi je suis un peu sur l'idée que tout vient d'un petit traumatisme enfantin comme ça.
C'est une peur du sang, plus ou moins importante. Enfin chez moi, elle était très importante, surtout lors de mon enfance, après mes accidents qui m'ont provoqué ma phobie.
C'est pas vraiment une phobie, on va dire que ça me met très mal à l'aise. C'est la musique d'Halloween de Michael Myers. Moi, c'est quand ça fait... Tum, 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 tum. Ah ! En fait, cette musique, elle fait très peur parce que t'as l'impression vraiment qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui va sortir de dessous ton lit et qui va t'arracher les orteils.
Mon papa, il a pour habitude, en même temps, conduire, il fait toujours plein de choses. Donc, message, tout ça, il mange aussi toujours des fruits. Donc, moi, je suis en tant que passagère, donc il épluche devant moi sa banane, comme ça, voilà. Et puis, dès qu'il l'a fini, bah, il fait quoi ? Il ouvre, pour jeter la peau, il ouvre la fenêtre. Donc il la jette par-dessus moi. Sauf qu'il ouvre jamais la fenêtre en plein et un jour elle m'est tombée dessus et je l'ai fait mais se garer sur la nationale, je lui fais ah mon dieu mais arrête ça et du coup bah c'était ouais j'ai cru qu'on allait avoir un accident quoi.
J'en croise pas chez moi sinon je déménage tout de suite, je passe même pas une seule seconde de plus chez moi.
Ah, je peux pas faire une prise de sang. Ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas fait une prise de sang.
Alors, j'ai la phobie aussi des gosses. C'est pas que j'ai la phobie des gosses et j'ai la phobie d'en tuer un. Voilà quand ça crie dans les transports en commun, quand ça pleure. Ben, si j'en ai pas, c'est que justement, je supporte même pas les miens, donc je vais pas supporter ceux des autres. Je peux comprendre qu'il pleure, genre il a faim. Moi aussi, je pleure quand j'ai faim. Je sais pas, ta tétine, elle est tombée par terre, ben je sais pas, tu l'emmènes au lavabo et tu la nettoies.
Ma mère, elle a la même phobie que moi, et on sait pas d'où ça vient, c'est tout ce qui a forme de poisson. C'est...
Plus on peut pénétrer, j'irais finement, au cœur de l'expérience des gens, plus on peut les aider, par exemple, à accomplir des changements rapides ou se débarrasser de certains problèmes.
J'écoute de la musique, moi, personnellement.
Par exemple, les crêpes mille trous, ça me dégoûte, je peux pas. Et c'est pas forcément les trous, ça peut être, par exemple, plein de triangles, plein de trucs.
Programmation, eh bien, tout d'abord, parce que nous sommes en quelque sorte programmés par certains automatismes de pensée, certaines façons de sentir ou certaines façons de nous comporter. Et nous employons le mot programme, qui pour nous est un peu synonyme d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appris dans notre vie qui est devenu automatique fait que nous nous sommes programmés d'une certaine façon pour vivre comme nous vivons aujourd'hui.
En fait, des fois, même dans le goudron, il y a des tout petits trous et ben, j'aime pas genre passer dessus.
Neuro. Eh bien, neuro, parce que la caractéristique première de cette approche est qu'elle s'intéresse principalement au fonctionnement du cerveau.
En fait, ça me fait mal au ventre, ça me serre comme si j'avais un anneau qui se resserrait autour du nombril.
Et que donc, nous nous intéressons, bien par exemple, à comprendre comment est-ce qu'une personne pense. Comment est-ce qu'elle construit son expérience de la réalité dans sa tête? Donc nous nous intéressons au fonctionnement du cerveau et du système nerveux.
Et je me sens pas bien, je peux devenir blanc, transpirer, devenir agressif.
Eh bien simplement parce que nous nous intéressons également au langage et surtout au fait que le langage reflète la façon dont les gens pensent. Donc si nous pouvons avoir une observation attentive du langage, nous pouvons faire certaines déductions sur ce qui se passe dans la tête d'une personne. sur comment ces processus mentaux sont organisés.
Il faut inspirer en 4, retenir 7 fois et expirer en 8.
À la plage, c'est très difficile. J'ai été une fois en Tunisie et dès que je vois mes pieds, ça va. Mais dès que je sens quelque chose, que ce soit une algue ou quoi que ce soit, je ne vais plus à la mer.
Le théâtre, enfin, la scène, c'est un truc de fou. Enfin, ça te libère de tout.
Il y a un peu une jungle des thérapies. Hein. Ouais. Quand on fait des recherches sur Internet, on trouve plus de 300 thérapies décrites aujourd'hui. Et en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui sont bien validées sur le plan scientifique. Vous savez, les thérapies ont fait l'objet d'évaluations comme les médicaments, avec des essais cliniques. On va comparer telle psychothérapie versus il y a des thérapies placebo qui peuvent être des listes d'attente ou simplement des séances d'information. Et donc, il y a des chercheurs qui, depuis des décennies, se sont penchés sur ces questions-là et ont évalué. Donc,
j'aimerais bien aller visiter quelques pays, mais je sais qu'ils ont des grosses araignées chez eux. Et dans le coup, j'ose pas, quoi.
On va commencer avec votre souvenir le plus récent. À partir de là, on remontera plus ou moins dans le temps. Il faut savoir qu'à chacun de nos souvenirs correspond à un noyau émotionnel. Et quand on détruit ce noyau, cela entraîne la détérioration du souvenir. Quand vous vous réveillerez demain matin, tous les souvenirs qu'on aura pris pour cible s'étioleront puis disparaîtront. C'est un peu comme un rêve éveillé.
Est-ce que mon cerveau peut être endommagé ?
Eh bien, le principe même de cette intervention, c'est d'endommager le cerveau. Mais on est dans le même état qu'après une soirée bien arrosée. Rien de méchant.
Bah, moi, c'est le seul fait que j'ai, parce qu'avant, je traversais vraiment un champ avec des poules et j'avais zéro problème. Mais il y a un jour au McDo, j'ai tendu une frite à un oiseau qui est venu très fort et depuis, j'ai peur des volatiles.
Il m'est arrivé aussi d'accompagner un patient restaurant qui n'était plus allé au restaurant depuis très longtemps, ou dans un ascenseur, ou de monter dans des étages, ou de reprendre la voiture.
Maintenant, les moineaux, ça va, mais les pigeons dans Paris, je suis pas à l'aise, quoi.
Vous savez, dans le cerveau, on a une sorte de petit chat anxieux et qui peut s'activer à certains moments quand on est dans une situation de façon tout à fait rationnelle et qui est en panique. Et là, l'idée, c'est de réapprivoiser cette partie de notre système limbique et de lui réapprendre qu'au fond, cette situation n'est pas dangereuse, qu'on ne va pas mourir, que tout va bien se passer, qu'on a des outils pour réguler un peu les émotions et du coup, pour pouvoir y retourner, mais aussi travailler sur les pensées, travailler sur les émotions.
Bah, les poules en particulier, genre là, ça allait à peu près, mais j'ai le cœur, là, il bat à 1000. Mais là, intérieurement, je tremble. Hein.
Alors, tout ce qui est moule, crevette, poisson pané, oui, mais tout ce qui est à forme de poisson, non.
Pour lutter contre ces obsessions, on peut se faire des petits rituels, ce qu'on appelle des compulsions. Je ne sais pas si vous avez des petits rituels, vous récitez des prières, vous, des chiffres, ou bien vous avez un...
divers blocages, ou des phobies, ou l'anxiété, ou ce type de phénomène, ou des psychosomatismes. Nous travaillons également avec ce type de problème. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé ces 3 dernières années dans le domaine du traitement des phobies. Vous savez, une personne qui a une peur irraisonnée concernant une situation qui elle-même n'est pas dangereuse pourtant. Peur des ascenseurs, etc. Et nous obtenons d'excellents résultats. Nous avons maintenant des suivis... nous, depuis 3 ans en France et depuis 7 ou 8 aux États-Unis, sur des phobies que nous guérissons en 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui peut en effet sembler magique. Et sur lequel nous avons des suivis de plusieurs années, des centaines de personnes qui sont venues, soit elles-mêmes comme clients ou comme observateurs, des professionnels qui viennent de domaines différents. Nous avons dans nos séminaires de formation des personnes qui viennent de différents horizons. Nous avons des psychanalystes, des comportementalistes, des gens qui viennent de l'organisation, des pédagogues. Et nous leur démontrons régulièrement, chaque semaine, comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de technique. Par exemple, pour guérir en effet une phobie en 10 minutes.
Ça peut aller loin. Les pleurs, les crises, dans les magasins où on vend des poissons, quand il y a des aquariums ouverts, je ne peux pas m'en approcher. J'ai vraiment l'impression qu'ils me regardent tous et qu'ils vont sauter.
C'est cela que Ferenczi a utilisé sous le nom de technique active. Les conseils donnés aux malades, parce qu'il dit bien que la plupart du temps, il s'agissait de conseils et non pas d'injonctions. Les conseils donnés aux malades concernant des domaines dans lesquels le malade devait prendre une activité. En ce qui concerne, par exemple, un malade phobique qui avait une phobie banale, une agoraphobie, la phobie de sortir de chez lui, d'affronter les espaces ouverts, les ponts, les avenues, eh bien, on lui disait, écoutez, moi, je vous conseille de faire un effort.
Justement, à Noël, ils avaient laissé la tête du saumon avec le saumon dans le frigo et ils m'ont envoyé chez quelque chose au frigo en faisant exprès et j'ai hurlé j'ai abattu la tête du poisson.
Ce qui rappelle un petit peu les thérapies comportementalistes actuelles, mais qui n'étaient pas fondées sur le même principe que les thérapies comportementalistes. Parce que dans celle-ci, il s'agit de guérir le malade de son symptôme, de l'amener à abandonner son symptôme, tandis que quand Ferenczi ou Freud conseillait à un phobique d'essayer de surmonter sa phobie, il s'agissait d'entraîner une augmentation de la tension psychique en espérant que cette augmentation de tension allait amener le malade à fournir davantage de matériel, comme on dit, sur le divan. On jouait sur l'augmentation de la tension psychique.
Je suis allée en mer, en Méditerranée, près de Marseille, au mois d'août. Alors les copains se baignaient, ils me disaient viens, et moi j'ai trempé mes pieds, c'est tout, j'avais trop peur, hein, impossible de me tremper dans l'eau.
L'agoraphobie coupe le malade de l'ensemble de la société, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui vous empêchent de faire les gestes du quotidien. Par exemple, je pouvais faire des conférences devant une centaine de personnes, voire davantage.
Justement, j'ai pris des leçons. J'avais 15 ans avec un professeur qui m'engueulait. Il m'avait simplement mise suspendue dans le grand bassin sans que j'aie pied et uniquement suspendue par une corde autour du ventre. Et c'est tout. Et il m'engueulait en plus. Et il ne m'avait pas dit qu'il fallait tenir les bras dans l'eau pour que ma tête ne tremble pas. Alors comme j'étais terrorisée, je sortais les bras de l'eau et naturellement ma tête plongeait dans l'eau. Vous imaginez l'histoire.
Et j'étais incapable de me rendre à tous mes rendez-vous en métro, en autobus, en voiture. J'étais parfois incapable de rester dans une file d'attente au supermarché. Je ne pouvais pas aller au cinéma, je ne pouvais pas prendre d'ascenseur, ni de tunnel, ni de pont, etc. Et donc, petit à petit, ma vie s'en est trouvée comme rétrécie.
Je faisais une brasse, je buvais une tasse. Alors j'avais sans arrêt cette espèce de malaise, là, l'eau chlorée qui m'entrait dans la gorge, c'était quelque chose d'affreux. Parce que moi, c'est la terreur, c'est que l'eau m'entre dans le nez et dans la gorge. Ça, c'est une terreur.
J'expire profondément, ça, c'est le plus important. Jusqu'à ce que la sensation de vertige ait complètement disparu.
Depuis l'âge de 9 ans, depuis, c'est pas possible.
Les phobies des serpents sont des troubles psychologiques qui se guérissent relativement bien. Relativement bien, vous savez, il y a beaucoup de maladies psychologiques qui sont difficiles à guérir. C'est pas simple de guérir certains troubles mentaux. Mais les phobies se guérissent relativement bien si on accepte que derrière le mot guérison peut apparaître parfois que des améliorations, c'est-à-dire il est rare que quelqu'un qui a une phobie des serpents devienne ensuite un amoureux, un collectionneur de serpents chez lui. Bon.
J'ai pu mettre le doigt en fait sur les racines de mes peurs et j'ai pu également mettre en évidence le sentiment d'abandon qui avait jalonné ma vie. Donc tous ces traumatismes qui ont commencé à l'âge de 1 an et qui se sont poursuivis quasiment jusqu'à l'âge de 30 ans, tous ces traumatismes se sont accumulés, ont été à l'origine de mes peurs et je pense que c'est en raison de ces traumatismes que j'ai développé mon agoraphobie à l'âge adulte.
Mais ceci dit, on peut largement réduire la peur et par des techniques qui sont d'ailleurs non pas des psychothérapies très longues, mais qui sont ce qu'on appelle des thérapies comportementales, qui consistent à aider la personne à progressivement affronter les situations difficiles en regardant d'abord des images, des films, des serpents artificiels, de les regarder ensuite dans des aquariums, d'en toucher progressivement, et en faisant des exercices répétés, et en même temps en contrôlant sa réaction d'anxiété, c'est-à-dire en contrôlant l'accélération de son rythme cardiaque à travers des techniques de relaxation, en luttant contre les évitements, c'est-à-dire le fait que systématiquement on fait un pas en arrière dès qu'on est confronté à une situation comme ça. Ce sont des thérapies qui sont relativement brèves, puisqu'elles durent en général quelques mois, environ une douzaine de séances.
L'agoraphobie arrive à peu près entre l'âge de 20 et 25 ans et il y a un élément déclencheur qui est souvent un traumatisme affectif, soit la perte d'un parent, soit la perte d'un travail, soit un déménagement vraiment traumatisant. Et dans mon cas, le premier malaise est survenu à l'âge de 22 ans et c'était après la mort de mon frère.
Je ne le mange pas, je ne le touche pas, voilà. C'est le beurre, quoi.
J'ai peur de tomber dans le vide. Mais j'ai pas le vertige, dans le sens où si c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais genre l'accrobranche, tout ça, c'est un peu compliqué.
Les assiettes où il y a eu du beurre, où je sais qu'il y a eu du beurre, c'est pas possible.
D'où ça vient, je ne sais pas. Je sais que selon les théories, il y a plusieurs explications. Comment dire, une interaction entre, oui, sans doute une composante, si ce n'est génétique, constitutionnelle, quoi. Et puis en même temps, un milieu familial qui n'a pas été très, très favorisant pour affronter le monde extérieur et les autres.
Dans des situations comme ça, je vais juste faire au plus vite. Comme ça, je me dis, au pire, si on a une et que je ne la vois pas, c'est pas grave, puisque la vitre sera fermée. Je sais qu'elle ne peut pas rentrer, là, c'est pas possible qu'elle rentre. Donc je préfère pas la voir, comme ça, j'ai pas peur.